Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, recrudescence de la mortalité maternelle et néonatale dans les zones touchées par les conflits armés en République démocratique du Congo. Les personnels de santé réunis à Kinshasa cogitent sur des stratégies nécessaires pour lutter contre ces fléaux. Assassinat lundi dernier dans la soirée du directeur de la Radio Maria à Goma par 3 hommes portant la tenue militaire des FARDC. La société civile locale s'est dit indignée par cet acte crapuleux et les services de sécurité et invite les services de sécurité à mettre fin à l'insécurité grandissante dans la ville de Goma. L'invité de ce midi est le bourgmestre de la commune de Boulongo dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Jean-Paul Katembo revient sur l'impact de la présence de la MONUSCO qui a une base militaire dans la région. Bonjour à tous. La santé maternelle et néonatale est une préoccupation sanitaire en République démocratique du Congo. En réponse à la question sur comment prévenir les taux élevés de mortalité dans les zones touchées par les conflits armés en RDC, un atelier a été organisé ce jeudi à Kinshasa par les personnels de santé sur la mobilisation des stratégies en vue de garantir la vie de la mère et du nouveau-né après l'accouchement. Outre les conflits qui rendent la maternité dangereuse, s'ajoutent les conditions précaires des maternités qui ne laissent aucune chance de vie à la mère et à l'enfant qu'elle porte. Un reportage d'Étienne Lissoumbou et Jean-Marie Kanaimba.
Médecins, personnels de santé et experts s'étaient réunis pour discuter et trouver des solutions sur comment baisser les taux de mortalité infantile en RDC. Docteur Christine Chimanuka, professeur et chercheur régional à l'Université catholique de Bukavu, explique comment est-ce qu'on peut diminuer les taux de mortalité maternelle et périnataux.
Alors notre objectif est de pouvoir voir en deuxième phase de notre étude comment est-ce que la SDMPR, la surveillance des décès maternels et périnataux, peut être faite de façon plus complète et que nous puissions avoir un suivi, que nous puissions identifier réellement les causes des décès et y apporter des pistes des solutions.
Pour sa part, Dr Pacifique Mwenebatu, professeur et directeur des recherches régionales à l'Université catholique de Bukavu, parle de comment améliorer les structures de santé.
Mais avec tout ce qu'il y a comme politique actuellement de renforcement du système de santé, on peut améliorer l'existant et rendre les soins accessibles pour tout le monde.
Dr Rosine Bigirinama, médecin et chercheur, encourage quant à elle les discussions sur les pistes d'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né.
Parce que vous devez savoir que la mère et le nouveau-né sont parmi les couches de population les plus fragiles dans toutes les communautés. Et en ce qui est de la RDC, les chiffres de santé maternelle et néonatale sont parmi les plus mauvais de la planète.
Sachez qu'à l'issue de cette première phase, un rapport sera transmis au secrétaire général du ministère de la Santé en vue d'un bon suivi.
Les personnes en situation d'handicap, notamment les malentendants et les malvoyants, sont des personnes à part entière qui méritent attention et protection. Voilà pourquoi les sensibiliser contre toute contamination au Mpox. C'est la mission que s'est donnée les mouvements de Médecins sans frontières. Ils l'ont fait savoir au cours d'un atelier qui s'est clôturé ce 28 septembre en marge de la célébration de la semaine des langues des signes. Encore une fois, Étienne Lissoumbou et Jean-Marie Kanaimba.
Les sourds-muets, dit Mme Chantal Matumuna, directrice du village Bondé-Kolibanga, peuvent devenir utiles dans la société s'ils sont encadrés.
Ces enfants décrochent le diplôme d'État au village Bondéko et ces enfants, ils nous reviennent pour la formation d'orthopédagogie pour devenir des futurs enseignants, c'est-à-dire ils deviennent encore des enseignants de leurs petits frères sourds. Donc, le village Bondéko a un grand défi d'encadrement, de valoriser ces enfants, de les transformer et de les rendre utiles dans la société.
Pour sa part, Edine Toumba, agent promotion des santé des MSF, souligne que la sensibilisation des personnes avec surdité rencontre beaucoup de problèmes à cause des problèmes de communication.
Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes descendus ici au village Bondéko pour sensibiliser les enfants avec surdité. Nous savons que c'est une catégorie un peu complexe à cause de la difficulté due à la communication. Et nous, dans les cas de notre projet, bien sûr, d'un côté, mais aussi profitant de la semaine internationale des langues des signes.
Signalons que l'objectif de cet atelier est de permettre à ces personnes d'accéder aux soins qui garantissent leur santé physique, psychologique et morale.
Au Nord Kivu, assassinat du directeur de la Radio Maria à Goma. Edmond Mondia a été froidement tué lundi dans la soirée en pleine rue par trois hommes portant la tenue des militaires FRDC alors qu'il rentrait chez lui dans les quartiers Ndosho. Cet assassinat a suscité beaucoup de réactions dans l'environnement médiatique en province et au sein des acteurs de la société civile. Le secrétaire technique de la coordination provinciale de la société civile s'est dit indigné par cet acte crapuleux et regrette l'inaction des services de sécurité pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans la ville de Goma. Placide Nzilamba s'exprime au micro de Gabriel Ouamenia.
À notre niveau, c'est vraiment un regret et c'est un signe patent d'une insécurité grandissante qui sévit en ville de Goma actuellement. Il est vrai qu'on a tenté de mettre en place même un plan d'urgence sécuritaire pour la ville de Goma et ses environs, mais on comprend qu'il est difficile aujourd'hui avec nos services de mater cette insécurité parce qu'elle tue du jour au jour. Imaginez-vous, cette nuit même, il y a deux personnes tuées dans la ville. Et vous comprenez que vraiment la population est fatiguée avec cette insécurité. On ne sait pas qu'est-ce qui manque à nos services aujourd'hui, parce que Goma aujourd'hui dispose même des militaires, dispose des policiers qui ont fui dans leurs entités qui sont à Goma. Mais on est capable de les utiliser pour restaurer même la sécurité dans une petite portion que le gouvernement contrôle aujourd'hui. Donc en tout cas, ça fait mal et nous pensons qu'il faille réfléchir autrement pour la sécurité de la ville. Soit ce sont les autorités qui ont échoué et qui doivent être remplacées rapidement, soit ce sont les éléments qui ont été amenés pour assurer la sécurité de la ville de Goma qui sont incapables, qui doivent être changés.
Notons que dans la nuit d'hier vendredi à samedi, deux autres personnes ont été tuées dans les quartiers Ndosho et Mugunga. Et puis restons dans la ville de Goma où il y a eu vive tension ce samedi. Les motards en colère bloquent la route principale en ce moment au niveau du croisement des routes communément appelées Instigo. C'est après la mort d'un des leurs fauché ce matin dans un accident de circulation au niveau du rond-point signé. Pour l'instant, pas de taxis ni bus en circulation dans la ville. Selon les premières informations, les motards décédés conduisaient les enfants à l'école lorsque, par un mauvais virage, il est entré en collision avec un bus en provenance du sud de la ville qui roulait à vive allure. Les témoins sur place affirment que le motard est mort sur place alors que les enfants qui l'acheminaient à l'école ont été éjectés en dehors de la chaussée pendant les heurts. Pour l'instant, toutes les activités sur cet endroit de la ville sont paralysées. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire précaire dans les territoires de Djougou affecte négativement la production agricole au centre commercial de Boulé. De nombreux agriculteurs ne fréquentent plus leurs champs en raison du regain des violences des groupes armés dans la zone. Selon le président de l'association des coopératives agricoles et paysannes dans la région, au moins une dizaine de leurs membres ont été tués dans leurs champs en l'espace de deux mois. Ézéchiel Mouzalia.
La région de Boulé, jadis considérée comme le grenier de maïs de haricots, fait face actuellement à la pénurie de ses produits agricoles. Vers les années 2000, cette région produisait plus de 5000 tonnes de grains de maïs par an. Cette production était destinée à ravitailler les grands centres de consommation tels que la ville de Bunia, Mongwalu, Mahagi et Kisangani. Malheureusement, la présence de la milice Codeco sur plusieurs tronçons et l'impraticabilité des routes et des dessertes agricoles ne facilitent plus l'évacuation de la récolte. Selon le président de l'association des coopératives pour le développement agricole et paysan du Boulé, cette situation impacte aussi la vie des milliers de familles dont des déplacés qui n'ont plus accès à leurs champs. Déogracias Dzbo.
On faisait les champs même chez nos frères. Même une dizaine de camions venaient en 2006, 2007. Ils chargeaient normalement. On pourrait même aller vendre les produits d'ici à Bunia ou à Mahagi, mais par rapport aux moyens de transport, il y a les défis totaux. C'est lié à l'insécurité. Il y a des commerçants qui ont peur de fréquenter les milliers compte tenu de l'état de la route. Alors dans d'autres endroits, il n'y a pas d'accessibilité.
Il demande au gouvernement de sécuriser cette entité en vue de permettre à la population paysanne de vivre de ses activités agricoles en toute quiétude, ce qui pourra rehausser la production. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Remise ce vendredi à Butembo du bâtiment réhabilité de la cellule des femmes de la prison de Kakwangura. Il s'agit d'un bâtiment d'une capacité d'accueil d'une cinquantaine de détenus réhabilités par les consortiums des ONG locales, Colibri et Solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant sur financement de l'organisation WIFA Worlds. Les directeurs de la prison de Kakwangura saluent cette action qui va améliorer les conditions de détention des femmes. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Le coût global de ces projets est évalué à un peu plus de 25 000 dollars américains, dont au moins 5 000 sont issus de la contribution locale. Construite et équipée par la MONUSCO, cette cellule des femmes de la prison de Kakwangura a été incendiée le 10 août 2022 par les rebelles des ADF lors d'une attaque qui avait provoqué l'évasion de plusieurs centaines de détenus. C'est depuis cette période que les détenues femmes de Kakwangura ont commencé leur calvaire. C'est ce qu'explique Augustin Singhi, le directeur de la prison de Kakwangura.
Il y a de cela deux ans que nos mamans détenues souffraient dans différents cachots amigos. Ces derniers logés dans le bureau directeur de la prison, ainsi que les nourrissons accompagnés par leur mère en détention. Que Dieu bénisse ton objet qui vient de nous soulager pour la réhabilitation de ce bâtiment, bien équipé, remplissant aussi les conditions des standards internationaux.
La cellule a été équipée de 30 lits capables d'accueillir une cinquantaine de détenus. Le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kitele Roger, appelle au bon usage de tous les matériels remis par leurs bénéficiaires. Il demande également au personnel de la prison d'en assurer une bonne gestion. Ces ONG ont par la même occasion remis aux femmes détenues des kits d'hygiénique, des fils de tissage pour apprentissage de métier et une assistance en vivre. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Autre nouvelle, des experts du chapitre AGOA RDC sont en pleine campagne de sensibilisation sur les forums AGOA RDC prévus l'an prochain à Kinshasa. Mercredi dernier, ils ont rencontré les députés et sénateurs pour solliciter leur représentativité au sein de la loi sur la croissance et les opportunités de l'Afrique AGOA en sigle. Cette journée d'échange a abouti à l'installation du bureau du caucus des parlementaires. On écoute Jean-Claude Massangou, député national et ancien gouverneur de la Banque centrale, au micro de Étienne Lissoumbou.
Donc c'est tout un challenge, c'est quelque chose qui doit se faire ensemble, différents groupes, gouvernement, parlement, sénat, société civile et bien sûr comme il s'agit des produits agricoles en majorité, on en a sélectionné 22, qu'on puisse s'assurer que au niveau de la base donc de ces producteurs, agriculteurs, pêcheurs et autres, qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent exporter aux États-Unis sans payer de douane, mais qu'il faut se conformer aux normes américaines dictées par, exemple, l'institution qui s'occupe de tout ce qui est alimentaire aux États-Unis. Donc, il y a un travail d'éducation, de formation qui doit être fait pour que nos populations puissent profiter de cela.
Direction la province du Maniema où les conseillers principaux du chef de l'État en charge des infrastructures, urbanisme et habitat et affaires foncières séjournent. Selon David Moukeba, l'objectif de sa mission c'est pour se rendre compte de la situation des infrastructures dans les Maniema. David Moukeba l'a dit à la presse après son audience avec les gouverneurs de province Moussa Kabwankubi Moïse. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
On regarde la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République qui est celle de pouvoir offrir un développement à la République démocratique du Congo et la province du Maniema faisant partie de cette République. Il était temps pour le chef de nous dépêcher ici pour pouvoir nous rendre compte de la situation des infrastructures dans le Maniema qui, jadis, a toujours été considéré comme une province enclavée et qu'à ce titre, il est plutôt question de pouvoir développer des infrastructures pour décanter cette situation d'enclavement. Donc voilà, c'est ce qui a fait l'objet de quelques échanges que nous venons avoir tout à l'heure avec Monsieur le gouverneur, et on a arrêté un programme, mais quel programme va nous aider effectivement de nous rendre compte de l'état des infrastructures dans le Maniema. Le message, je crois, c'est de continuer à croire à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà de cette guerre qui nous est injustement imposée, le chef de l'État a la volonté de pouvoir offrir un développement à la RDC. À travers la République, il y a des efforts qui sont fournis par rapport à cette vision. Le PDL 145 territoire, au-delà du PDL 145, il y a le programme de la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités sociales. Ce sont ces programmes qui, une fois mis en marche, déroulés, vont se faire sentir auprès de la population et la population comprendra la démarche du chef.
Sport dans ce journal, éliminatoire Cannes U20, zone Unifac. Les Léopards U20 jouent cet après-midi contre le Nzalang National U20 de la Guinée équatoriale. Rencontre prévue à 16h, heure de Kinshasa, au stade Massamba Déba à Brazzaville. Les Léopards se sont entraînés hier soir avec sérénité sous la direction du coach Guy Boukassa. Sébastien Desabre est toujours sur place à Brazzaville. Vanessa Kongolo et Paul Badjanyama ont pris part pour Radio Capi à cette séance d'entraînement. Voici leur reportage.
Engagés et déterminés à mieux faire face aux Alangues de la Guinée équatoriale, c'est ce qu'on pouvait lire sur les visages des Léopards juniors hier lors de la séance d'entraînement au stade Massamba Déba. Un match nul ou une victoire qualifie directement les Léopards U20 en demi-finale de ce tournoi zonal de l'UNIFAC grâce au goal à virage. Moins 1 pour la RDC et moins 2 pour la Guinée équatoriale, tous deux battus par les Diables Rouges du Congo lors de la première journée du groupe A. L'adversaire de la RDC, la Guinée équatoriale, s'est aussi entraîné hier dans le même stade. Rondo Oyana, coach de la Guinée, croit ferme comme dur battre la RDC.
Déjà, après une défaite, il y a toujours l'émotion qu'il faut essayer de régulariser. On pense pas, on croit qu'on doit les battre. Il faut y croire et je pense que c'est ça d'abord l'idée qu'il faut avoir la tête positive et la pensée et d'aller avec l'objectif de gagner pour pouvoir se qualifier.
RDC Guinée équatoriale, match à suivre en direct de Radio Okapi à partir des 16h, heure de Kinshasa, Brazzaville, Paul Badjanyama et Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Madagascar, l'interdiction de l'avortement brise les vies des fillettes enceintes à la suite des viols. Alors que 52 pays africains ont signé les protocoles de Maputo stipulant que l'avortement doit être autorisé dans des cas de grossesse issus d'une agression sexuelle, d'un viol ou d'un inceste, sept pays signataires demeurent en contradiction avec cet engagement. Le code pénal de Madagascar sanctionne sévèrement les femmes ayant recours à l'avortement et les praticiens. Le parlementaire refuse toujours de voter un texte pour autoriser l'interruption thérapeutique des grossesses, quitte à laisser des vies se briser.
L'invité.
Notre invité est le bourgmestre de la commune de Boulongo, dans le territoire de Beni. Le vendredi 27 septembre, une mission d'évaluation de la situation sécuritaire de la MONUSCO s'est rendue dans la localité de Kilia, à 25 km de la ville de Beni. Jean-Paul Katembo, le bourgmestre de la commune de Boulongo, revient dans cet entretien avec Jean-Toby Okala sur l'impact de la présence de la MONUSCO qui a une base militaire dans la région.
Jean-Paul Katembo, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi ressemblait la situation sécuritaire dans votre entité il y a 4-5 ans?
La commune de Boulongo, c'est une entité qui a connu, tu sais qu'elle connaîtrait comme affre de guerre, parce que depuis le 21 décembre 2020, nous avons eu notre première attaque par l'ADEF. Cette situation nous a accompagnés 3 ans, dira, après le 21 décembre. Nous avons fait janvier 2021, 2022, 2023, jusque vers mars. C'est parti, au moins on a essayé de recouvrer petit à petit la calmer. La commune de Boulongo, c'était quasiment vide. Au moins 95% de la population qui était en exil. Moi personnellement, je n'ai resté qu'au côté des militaires. Comme nous étions déjà dans l'état de siège, il y a eu des massacres, il y a eu des maisons incendiées, il y a eu des pillages et des incendies de véhicules. Même à plein centre-ville.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la présence de la MONUSCO a apporté à votre entité et à ses habitants qui reviennent aujourd'hui?
Effectivement, juste après que nous ayons connu cette menace, c'est en 2022 que la base de Kilia de la MONUSCO, déjà de Malawi, avait décidé d'avoir une position dans le centre de Boulongo. Parce que chaque fois, quand nous on les appelait pour intervention, la distance qui nous séparait de Boulongo à Kilia faisait parfois défaut. Et dès leur arrivée, nous avons eu un appui sensiblement considérable. Et tout le monde a compris que la réponse prompte que la MONUSCO donnait avec ses engins lourds, ça pouvait permettre à l'ennemi de ne plus pénétrer le centre commercial de Boulongo. Et d'un moment à l'autre, il commençait maintenant à se faire attendre des attaques dans la profondeur ou avec l'appui des renseignements à travers les drones de la MONUSCO, on devait identifier directement là où vient la menace qui vient encore attaquer la commune de Boulongo.
Alors, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui dans la commune de Boulongo ? Première question. Deuxième, c'est quoi les rapports entre la population et les casques bleus de la MONUSCO ici ?
Aujourd'hui, la commune de Boulongo a recouvré son accalmie. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de retour de la population qui était à 90% partie. Certainement, tout cela, c'est suite à une fraîche collaboration que nous avons eu à mettre en place par les structures de la société civile, et les forces armées, militaires, FARDC, police, et l'appui de notre partenaire de la MONUSCO qui ne cessait à venir tout le moment vers nous appuyer.
Il y a quelques mois, le gouvernement congolais et les Nations Unies signaient un plan pour un désengagement graduel, ordonné et responsable de la MONUSCO. Ce serait quoi l'héritage de la MONUSCO pour votre entité ?
Sur le plan opérationnel militaire, nous reconnaissons la MONUSCO comme un partenaire intervenant en appui aux militaires. Nous savons qu'il revienne à la compétence de l'autorité de comprendre que tant que la sécurité parle encore de son nom, le départ de la MONUSCO, ce n'est pas un salut. Parce que les zones de sécurité diffèrent. Pour nous qui sommes dans des milieux ruraux, où la complexité sécuritaire s'avère encore indispensable, nous demanderions aux autorités de le faire progressivement, tout en nous gardant, nous, dans leur agenda, que la MONUSCO, c'est encore un intervenant favorable de la communauté.
Dernière question, vous l'avez dit vous-même, ici, dans la commune de Boulongo, les populations vivent en parfaite symbiose avec les casques bleus de la MONUSCO, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains coins, n'est-ce pas, de la République. Comment expliquez-vous cela ?
Vous savez, il est toujours dit que les conséquences qu'on sait mieux. C'est à partir de ces conséquences que nous avons compris que la MONUSCO, loin d'être indexée du mal, pour nous, ça a été un salut. Parce qu'il est un jour venu à la rescousse de nous tous. Alors, nous ne pouvons pas nous imiter aveuglément ce qui s'est fait ailleurs.
Jean-Paul Katembo, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie gentiment.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session des nouvelles de la mi-journée sur Radio Capi. Merci à Alain Goy qui a assuré sa mise en onde. Merci également à Jacques-Yves Molima qui l'a préparé. Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Fidèles auditeurs, merci de votre attention.